ce thème du travail, comme on l'a fait la semaine dernière. Et voir ensemble ce que la Bible nous dit. Tu vas trop vite, là. Voilà. Donc, j'ai remis les photos la semaine dernière, qui nous rappellent des moments qu'on a tous vécus, les uns et les autres. Il y a ceux qui les vivent en ce moment même, et puis il y a ceux que nous avons connus dans le passé. Le retour à l'école, bien évidemment, et puis aussi l'activité professionnelle. Alors, il y a ceux qui vivent le travail comme ça, donc... Mais justement, ceux qui vivent le travail comme ça, on va en parler ce matin. Ah, il y a ceux qui vivent le travail comme ça, bien sûr. Voilà. Il y en a qui ont vraiment cru que c'était mon bureau, en plus. Je peux rien dire ici. Si je vous dis c'est mon bureau, ça vous dit que c'est le bureau du pasteur. Ben oui, forcément. Non, le mien, c'est pire que ça. Et là, il y en a qui vont me croire. Ils vont me dire, mais Daniel, tu te rends compte? Tu veux qu'on aille faire le ménage chez toi? Non, c'est pas ça. C'est pas mon bureau. Même si, il y a un peu des dossiers à droite et à gauche, des choses comme ça. Mais ça n'a pas atteint cet extrême-là, je vous rassure. Donc, il y a le stress au travail. Il y a ce qu'on peut vivre de difficile, parfois de douloureux, de pénible. C'est quand même un tiers de notre temps qu'on passe dans une entreprise, une activité professionnelle, quelle qu'elle soit. Donc, c'est une grande partie de notre vie. Alors, la semaine dernière, on a regardé ensemble comment Dieu voit le travail. Et en fait, c'est lui qui l'a donné, le travail. Parce que lui, il travaille aussi. Il a beaucoup travaillé. Au départ, lorsqu'il a créé ce monde, et il a créé des êtres à son image aussi, capables de faire des choses, capables de réaliser des choses, de créer. Donc c'est plutôt quelque chose de positif, et contrairement à ce qu'on pensait dans l'Antiquité, dans beaucoup d'autres cultures, que le travail était une malédiction, quelque chose de négatif, la Bible ne donne pas cette vision du travail, même si après la chute, c'est devenu quelque chose de pénible, qui peut être difficile à cause de la malédiction qui est tombée sur l'homme et sur cette terre à la suite de cette désobéissance. Et le travail est souvent donc devenu asservissement, aliénation, notamment au lieu d'être un épanouissement, une joie, une satisfaction. Et c'est ce que nous avons essayé de voir la semaine dernière à partir de ce que Dieu a fait lorsqu'il a créé le ciel et la terre, et chaque étape de cette création se terminait par ces mots: et Dieu vit que cela était bon. Donc un profond sentiment de satisfaction sur ce que Dieu avait fait, qui correspondait exactement à ce qu'il avait voulu faire. Et je pense que c'est aussi quelque chose que nous sommes appelés à vivre et à connaître dans notre vie personnelle. Et on le connaît certainement les uns les autres. Lorsque nous sommes appelés, on nous demande de faire quelque chose et que ce qui a été fait correspond exactement aux attentes des autres, et que les autres nous remercient, nous disent que ça leur a fait du bien, c'est quelque chose qui correspond à ce qu'ils souhaitaient. Donc il y a vraiment ce sentiment de satisfaction. Ça, c'est quelque chose que nous sommes appelés à vivre, et on l'a vu au travers de quelques exemples. Maintenant, quand je parle du travail, je ne parle pas uniquement de l'activité professionnelle, bien sûr. Il n'y a pas que ça que nous faisons dans la vie. On fait beaucoup d'autres choses à côté de l'activité professionnelle avant de commencer à travailler. Et puis après, quand on est à la retraite, on continue aussi de travailler sous d'autres formes. Et même si on reste qu'à la maison pour élever nos enfants, c'est aussi un travail. Et puis tout ce qu'on peut faire pour les autres dans le courant de notre vie, pour nos amis, pour les membres de notre famille, tout ce qu'on peut sur le plan intellectuel, sur le plan matériel, enfin tout ce qu'on peut faire pour les autres, et notamment dans l'Église aussi, parce que là, il y a beaucoup d'activités, beaucoup de travail accompli dans beaucoup de domaines, sur le plan matériel ou dans d'autres domaines. Ça, ce sont des activités que nous sommes appelés à faire les uns et les autres. Et donc, quand je parle du travail ce matin, je ne parle pas uniquement du travail professionnel, mais de tout ce que nous sommes appelés à faire. et notamment dans l'Église. Mais bien évidemment, il y a cette activité professionnelle et certains, bien sûr, vivent cela douloureusement et j'en parle assez régulièrement avec les uns et les autres. Quand l'entreprise connaît une crise économique, comme c'est le cas de beaucoup d'entreprises, et qu'il doit y avoir des licenciements, que l'entreprise doit fermer aussi. Enfin voilà, c'est des moments très douloureux dans la vie de cette personne, dans la vie pour sa famille entière, bien évidemment, qui est affectée par cela. Ce sont des situations difficiles, ou encore le fait de travailler dans une entreprise, mais avec des mauvaises conditions de travail. Alors, elles se sont améliorées, bien évidemment, et on connaît des conditions tellement supérieures, tellement meilleures à ce que peuvent vivre d'autres dans d'autres pays, quand on voit les enfants forcés au travail et dans quelles conditions ces personnes travaillent. Voilà, il y a beaucoup d'avancements dans ce domaine depuis un siècle ou deux, depuis le commencement de l'ère industrielle et notamment au travers du syndicalisme qui s'est intéressé à ces conditions de travail pour améliorer les conditions de travail. Et ce n'est pas le cas de tout le monde, bien évidemment. Même encore aujourd'hui, il y a des situations difficiles et critiques. Et puis, il y a des choses que, bien évidemment, la loi, le droit ne peut pas résoudre, ne peut pas imposer, apporter. C'est l'ambiance qu'il peut y avoir dans un bureau, dans un service. Ça, c'est les gens qui vont donner cette ambiance. Et bien évidemment, si on est dans un service avec une ambiance délétère, conflictuelle, c'est pas très agréable d'aller travailler dans ces conditions-là. Et certains d'entre vous ont connu cela dans leur vie professionnelle ou le connaissent en ce moment même. C'est ce que vous vivez. Donc il y a le travail avec des mauvaises conditions extérieures, j'ai envie de dire, externes, qui sont là autour de nous, dans l'entreprise, dans le service, dans le climat, dans l'ambiance, dans ce qui n'est pas fait pour notre sécurité, par exemple, au travail, pour un meilleur confort, etc. Donc il y a cela, puis il y a ceux, et j'espère qu'il y en a ici, qui sont heureux de travailler, et parce qu'ils aussi travaillent dans de bonnes conditions, dans l'entreprise dans laquelle ils sont. Je parle avec les uns et les autres aussi, et certains me disent, voilà, ils sont dans une bonne entreprise, avec des bonnes conditions de travail, avec un bon climat dans le service, avec une possibilité d'avancement aussi dans le cadre professionnel. Enfin, il y a des conditions excellentes sur le plan extérieur. Et pourtant, le travail peut, même dans ces conditions-là, peut être une forme d'esclavage. Malgré le succès, malgré l'argent parfois, malgré les bonnes conditions, celles qui sont là réunies extérieurement, il y a des conditions intérieures qui sont indispensables si l'on veut connaître un véritable épanouissement personnel dans le travail. Il n'y a pas que des conditions extérieures qui sont nécessaires, mais il y a des conditions internes, personnelles, profondes, au niveau de notre cœur. Et c'est surtout de cela que je voudrais parler ce matin, parce que je pense que là-dessus, la Bible donne une véritable réponse. Elle apporte une vraie solution que le droit du travail ne pourra jamais apporter, bien évidemment, et tout ce qui peut être fait sur le plan externe ne pourra jamais être fait. Et pourtant, c'est tellement essentiel. Et c'est d'abord là-dessus qu'on va rester un peu ce matin. Donc, le plan sera le suivant, l'agitation intérieure dans notre cœur, l'agitation dans notre âme, dans le travail, dans ce que nous faisons. C'est pas seulement l'activité professionnelle, mais ça peut être moi en tant que pasteur, notamment, dans ce que je fais, dans tout ce que nous pouvons accomplir et faire dans notre vie. Et puis le repos intérieur dans le travail, dans ce que nous sommes appelés à faire. Et bien évidemment, le texte clé, mais on le lira tout à l'heure, vous le connaissez aussi très bien, c'est celui de Matthieu 11. 28-29. Intéressons-nous à cette agitation intérieure qui peut être la nôtre et peut-être qui est plus marquée encore aujourd'hui dans notre culture occidentale. Je pense que ça a aggravé les choses dans ce domaine. Je m'explique. Il y a eu un changement majeur en Occident qui a fait que le travail est devenu ce que les spécialistes appellent un facteur identitaire. C'est quelque chose d'essentiel à notre identité. Notre identité, quand je parle de l'identité, c'est notre identité personnelle en tant qu'individu. Et ça évoque l'idée, bien sûr, du caractère permanent et fondamental d'une personne. Ça peut être un groupe, bien sûr, mais on parle ici d'une personne qui fait son individualité, qu'il est un véritable individu, et qui fait aussi sa singularité, qu'il n'est pas comme les autres. Notre identité, ce que nous sommes, c'est quelque chose qui se construit à travers les années. Et qui se construit, bien sûr, avec les influences extérieures que nous subissons les uns les autres. On pourrait résumer cela avec une parole de Jésus. Lorsque Jésus va se présenter comme étant le bon berger. Vous vous souvenez dans Jean 10, quand il dira « Je suis le bon berger » et il va comparer l'humanité à des brebis. Nous sommes des brebis. Ce qui n'est pas tout à fait flatteur. Hein. Vous savez ce que c'est les moutons. Hein. Moutons de Panurge. Il y a beaucoup de conformisme dans l'humanité. Quelqu'un fait une chose, on fait pareil. Et puis l'incapacité de se diriger aussi. Donc, il faut un berger pour des brebis. Et c'est la même chose pour nous, bien évidemment. Mais je veux parler dans cela. Et dans ce texte, Jésus parle de ce berger, dans sa relation avec ses brebis. Et il nous dit que le berger appelle les brebis par leur nom. Il appelle les brebis par leur nom. Les brebis, elles ont un nom. Mais ce n'est pas elles qui se sont donné un nom. D'accord ? C'est le berger qui leur a donné un nom. Et elles reconnaissent, après quelque temps, que c'est leur nom. Elles reconnaissent. C'est le berger qui leur donne un nom. Et en cela, on peut dire, au travers de ce nom, et résumer notre identité. Pour notre identité personnelle, nous avons besoin d'un nom. Ce nom, il peut nous être donné par les autres, ou par nous-mêmes, ou par Dieu. Dans les sociétés traditionnelles, anciennes, traditionnelles, d'une manière générale, c'est la communauté qui donne un nom à la personne. C'est la communauté qui va définir l'identité de la personne. Quand un enfant naît, dans ce genre de culture, son destin est pratiquement tout tracé. C'est la communauté qui sait ce qu'il va devenir, ce qu'il va faire, avec qui il va se marier, où il va habiter, quel métier il va faire, etc. Dans ce genre de culture, ce sont les autres qui vous imposent quelque chose, en fait. Si vous naissez dans une classe sociale, vous allez rester toute votre vie dans cette classe sociale. Vous n'allez pas changer de classe. Si vous naissez dans un village, vous allez rester toute votre vie dans ce village ou dans cette ville. Vous n'allez pas changer de ville et de village. Le métier, d'une manière générale, le fils aîné devait reprendre le métier du père. Jésus, lui, est devenu charpentier. Pourquoi ? Parce que Joseph était charpentier. Ça se fait comme ça, ça se faisait comme ça ici, bien évidemment, entre pays, autrefois. Alors, il y avait la pratique, bien sûr, ou la coutume dans les familles, autrefois, notamment en France, c'est que quand il y avait trois fils, il y en a un qui reprenait le métier du père, l'autre qui allait à l'armée, puis l'autre qui allait dans les ordres, au couvent, au monastère. C'était un fils. Ben voilà, c'était la communauté, c'était le groupe qui décidait cela en fait, qui faisait pression pour que l'enfant aille dans cette direction-là. En ce qui concerne le mariage, c'est pareil, c'est pas lui qui choisissait sa femme, c'est la famille, c'est le groupe, c'est la communauté qui, qui choisissait ou qui choisit encore dans ces cultures qui existent, ces cultures qui existent bien, dans bien d'autres pays que le nôtre, c'est la famille qui choisit. Elle choisit la femme, l'épouse du fils en fonction de critères économiques notamment. Il faut assurer le nom de la famille. Quand l'enfant naît, il reçoit un nom, et c'est le nom de la famille, et il va porter ce nom, et il doit être digne de ce nom. Et il doit faire en sorte que cette famille puisse se développer, puisse aller plus loin économiquement, etc. Donc, c'est l'enjeu. Et dans ce genre de culture, bien évidemment, on comprend que l'individu, c'est pas ce qui vient en premier. Ce qui vient en premier, c'est la communauté, c'est le groupe. C'est le groupe qui décide. Et c'est le groupe qui donne un nom, une identité à celui qui arrive dans cette famille. Donc la formation identitaire, elle passe par le groupe, en fait, parce qu'il lui donne un nom. C'est quelque chose qui peut être écrasant, ça peut être une vraie pression, parce que l'enjeu pour ce fils ou cette fille, c'est d'être à la hauteur des attentes que les autres lui ont données, lui ont imposées pratiquement. Alors il peut toujours y avoir des rebelles, on connaît tous l'histoire du fils prodigue. Il peut toujours y en avoir un qui se révolte et qui dit « j'en ai assez, je vais aller ». Mais c'est plutôt l'exception, ça. C'est jamais la règle, bien évidemment. Donc, dans ce genre de culture, l'identité, le nom, il est donné par les autres. Ils ont une très grande influence pour construire l'identité ou former l'identité d'une personne. Aujourd'hui, dans notre monde occidental, nous avons changé d'univers à ce niveau-là. Et radicalement, nous sommes dans une société aujourd'hui où c'est pas le groupe qui est au centre, c'est l'individu qui est au centre. Et je ne veux pas remonter historiquement, je n'ai pas le temps de voir tout cela, mais on le sait par expérience les uns et les autres, puisqu'on vit dans ce genre de culture. Et de ce fait, parce que l'individu est au centre, on laisse à l'individu la responsabilité de se faire un nom. Ça revient à ce qui s'est passé, vous connaissez cet épisode biblique qu'on appelle la tour de Babel. Ce n'est pas seulement des hommes qui se sont dit « bâtissons une tour dont le sommet touche le ciel », mais ce sont des hommes qui ont dit aussi « et faisons-nous un nom ». C'est nous qui allons décider. Et nous sommes dans ce genre de culture aujourd'hui, où la responsabilité est pratiquement entièrement donnée à l'individu. C'est lui qui doit décider de ce qu'il doit faire de sa vie. Comme métier, par exemple. Vous, parents, vous avez peut-être envie que vos enfants fassent telles et telles études, qu'ils... Et il y a une influence qui peut se jouer, mais d'une manière certaine, c'est l'enfant qui va décider. Quel métier il va faire. C'est lui qui va décider. Vous avez certainement, comme moi, entendu des interviews de célébrités, d'artistes notamment, comédiens, chanteurs et autres. Et lorsque le journaliste ou la journaliste discute avec ce genre de personnes et qu'il est question de leurs enfants, quand ils ont des enfants ou un enfant, 9 fois sur 10, le journaliste va toujours poser la même question, dire « Est-ce que vous voulez que votre fils fasse la même chose que vous ?» Vous voyez ? Ça vient, 9 fois sur 10, ça vient. C'est un peu bateau comme question, mais ça vient systématiquement. Mais 10 fois sur 10, l'artiste va répondre « Ah, ben non, c'est pas moi qui vais décider, c'est lui qui va décider. Est-ce qu'il va faire la même chose que moi ? Oh, ça, c'est pas à moi de décider pour lui. » C'est à lui de décider. C'est lui qui fera ce qu'il a envie de faire. C'est pas ça la réponse? On a tous entendu la même chose. Hein. On entend tous la même chose. Mais ça, c'est dans notre culture. Parce que, vous voyez, dans d'autres cultures, dans une autre culture, ce sont les parents qui décident. Si aujourd'hui, on était là pour dire, ben, moi, mon fils, de toute façon, c'est moi qui vais décider pour lui. Moi j'ai toujours voulu qu'il soit charpentier, ben, il va être charpentier. Même s'il n'a pas envie, il sera charpentier. Si vous parlez comme ça, on va dire « mais t'es bizarre, toi. C'est pas comme ça qu'on fait. Laisse-le libre. Laisse-le s'épanouir. » Vous voyez ? Et quand on parle comme ça, on sent qu'on n'est plus dans le même monde de ce que on a connu dans notre pays autrefois ou dans ce qui se passe dans d'autres cultures. Pareil pour le mariage. Mariage, c'est vous qui allez décider avec qui il va se marier ? Non. C'est lui qui va choisir. Parfois, on préfère y choisir. Parce qu'on sait où ça va, des fois. On a un peu d'expérience en tant que parent. Mais ce n'est pas nous qui allons choisir. C'est lui qui va choisir. C'est lui qui porte la responsabilité. C'est lui qui doit choisir. Dans d'autres cultures, ce sont les parents qui choisissent. Les parents qui choisissent. On a peut-être déjà parlé, j'ai un ami en Inde, et quand on s'est parlé il y a quelque temps de cela, et que je lui disais que j'avais deux filles, qu'elles étaient mariées, etc. Et lui avait deux fils qui n'étaient pas mariés. Alors je lui dis, ah bon, pourquoi ? Ben, il dit, parce qu'on n'a pas encore décidé avec qui. Alors là, vous entendez ça, vous dites, oh là là, mais qu'est-ce que tu fais ? Il dit, oui, dans notre culture, c'est nous les parents qui allons décider avec qui nos fils vont se marier. On va choisir pour eux, on va choisir le meilleur, mais on va choisir pour eux. Et depuis, ils se sont mariés. Donc vous voyez, on est dans une culture complètement différente, où c'est à l'individu de décider par lui-même et pour lui-même. C'est lui qui porte. Alors je ne dis pas qu'il n'y a pas d'influence, je ne dis pas qu'il n'y a pas de conseil et tout cela, bien évidemment, ça existe. Ce n'est pas aussi hermétique que ça, mais d'une manière générale, la tendance générale, c'est de dire que dans notre société, c'est à nous de nous faire un nom. Dans la société traditionnelle, la pression vient de l'extérieur. On dit, voilà, toi, tu es né dans cette famille-là, ben, il faut que tu sois à la hauteur maintenant. Nous, on a toujours fait comme ça, et toi, tu vas faire comme ça aussi. Nous, on est allé jusque-là, et ben, toi, tu vas nous amener un peu plus loin. Grosse pression, oui. Grosse pression. Et donc, il doit suivre le mouvement, la tradition de la famille, les coutumes de la famille, les pensées, les convictions de la famille. Lui, il doit intégrer tout ça pour faire exactement comme ce qu'on attend qu'il fasse. Et s'il ne fait pas, il n'est pas à la hauteur, il devient un fils indigne, il est rejeté, déshonoré, disgracié, etc. par la communauté. Donc, grosse pression pour lui. Mais ce n'est peut-être pas aussi terrible et aussi dur que dans notre système aujourd'hui ici, où c'est à nous entièrement, individus, c'est nous qui devons tout faire. Et là, il y a une très très grosse pression. C'est à nous de nous faire un nom. Alors, pour beaucoup, pas uniquement cela, mais pour beaucoup, ils se servent du travail, de leur activité professionnelle, de leur carrière professionnelle, pour arriver à se faire un nom. Dans la tradition, dans la culture traditionnelle, on fait le métier que le père faisait. Et il fallait faire aussi bien, sinon mieux, que lui. Il est appelé à être à la hauteur de cela. Et s'il fait bien, il est reconnu, il est accepté par la famille, comme étant un bon fils. Il va habiter au même endroit. Généralement, il habitait dans la famille du père. Il amenait sa femme dans la maison du père, et c'est là qu'il travaillait. Et s'il fait ce qu'on lui demande de faire, alors il est accepté. Dans notre société à nous, comme c'est à nous de nous faire un nom, toute la charge revient sur nous, tout le fardeau revient sur nous. Et ce que les gens utilisent de plus pour se faire un nom, c'est le travail, c'est le métier qu'ils vont faire. C'est les études, c'est le diplôme, c'est la carrière professionnelle. Et au travers de cela, c'est le moyen pour eux de s'accepter, d'être acceptés par les autres, de se faire un nom. Et en ce qui concerne le travail, avant ça touchait uniquement les hommes, bien évidemment. Dans les sociétés traditionnelles, c'était les hommes qui travaillaient à l'extérieur. Là, ça touche aussi les femmes, bien évidemment. Puisque les femmes travaillent. Et elles prennent exactement le même principe que celui que les hommes ont adopté. Illustration de cela, ça va peut-être vous surprendre, c'est Madonna. Vous allez dire, oh là là, Daniel, tu fais fort. La semaine dernière, c'était John Coltrane. Cette semaine, c'est Madonna. Où est-ce que tu vas aller? Alors, je vous ai mis une photo. Croyez-moi, j'ai eu du mal à trouver une photo décente. Parce que dans le domaine de la provocation, c'est une spécialiste. Donc, celle-là, ça va. Mais écoutez ce qu'elle dit, parce que ça illustre exactement ce qu'on vient de dire. Ce qu'elle dit sur elle, dans une interview, dans un magazine, il y a quelques années de cela, elle dit « J'ai une volonté de faire, et tous les efforts que je fais ont pour but de dominer ce terrible sentiment d'infériorité que j'ai. Lorsque j'y arrive à dominer ce sentiment d'infériorité, je découvre alors que je suis un être spécial. Mais très vite, je retombe dans les mêmes travers et je me vois comme quelqu'un de médiocre et sans intérêt. Ce qui me pousse dans la vie, dit-elle, à me surpasser, c'est cette crainte horrible de devenir médiocre. Car même si je suis devenu quelqu'un, mondialement connu, je dois toujours prouver que je suis quelqu'un. Mon combat pour cela ne s'arrête pas et ne s'arrêtera jamais. » Elle est très lucide. Elle n'est pas si bête que ça. Elle est très lucide, malgré les apparences, et très lucide sur ce qu'elle vit. En d'autres termes, elle dit, c'est à moi de me faire un nom. Et se faire un nom, c'est compliqué et difficile. Surtout elle, dans son histoire personnelle, elle n'a pas eu de mère, etc. Il y a eu un tas de choses, bien sûr, traumatisantes qu'elle a vécues. Donc elle doit se faire un nom. Et elle porte cette responsabilité-là et ce fardeau. Et elle a toujours la crainte de ne pas y arriver. Ça, c'est la société dans laquelle on vit aujourd'hui. On vous dit, mon petit, c'est à toi maintenant de te faire un nom. C'est à toi d'y arriver. Alors certains vont choisir le travail, d'autres choisiront le mariage, l'acquisition de biens, de richesses matérielles et autres. Enfin voilà, on peut avoir d'autres différents moyens pour se faire un nom. D'autres prendront la politique, par exemple. Vous savez, c'est une voie pareille. D'autres comme Madonna, une voix artistique. Mais c'est notre challenge à chacun d'entre nous, notre défi. À partir du moment où c'est à nous de nous faire un nom. Alors ça met une terrible pression, vous savez, sur les gens. Et même lorsqu'ils réussissent, comme c'est le cas de Madonna, ils ont toujours peur de l'échec. Même lorsqu'ils réussissent, ils ont peur de ne plus réussir ou de perdre ce qu'ils ont réussi à obtenir. Et ils vivent constamment dans cette angoisse et dans cette crainte. C'est ce qui nous amène au deuxième point. Le deuxième point, c'est le repos intérieur dans le travail, dans ce que nous faisons, dans ce que nous pouvons faire, que ce soit dans une entreprise, que ce soit à la maison, que ce soit dans l'église, peu importe. Le travail, là, c'est vraiment au sens le plus large possible. La Bible nous montre qu'il existe une symbiotique entre le travail et le repos. Symbiotique, vous connaissez le mot symbiose certainement, parle de gens qui sont en symbiose, c'est souvent utilisé en biologie, ce terme, la symbiotique, c'est vraiment une relation étroite, profonde, entre deux choses, deux éléments, ici entre le travail et le repos. Il y a une relation symbiotique, ils sont en symbiose, profondément unis, il n'y a pas l'un sans l'autre. On le voit même en Dieu, ça. Quand Dieu travaille, quand il crée le ciel et la terre, le septième jour, boum, il se repose. Vous voyez ? Et c'est ce qui va amener Dieu... Alors, c'est ce qu'on voit. C'est ce qu'on voit sur le plan physique, par exemple. Le lien important qu'il y a entre le travail et le repos, puisque c'est toujours cette alternance dans laquelle nous sommes. L'alternance de l'activité, c'est généralement la journée, et puis le repos, c'est généralement la nuit. Alors je sais, il y en a qui travaillent la nuit, et pour eux, ils se reposent le jour. Mais on n'y échappe pas. Physiquement, on ne peut pas y échapper. Comme on a besoin de se nourrir tous les jours, on a besoin de se reposer tous les jours. OK ? Il y en a qui ont besoin plus que d'autres, peut-être. Mais on a tous besoin de se reposer. Tous les jours, aussi, on le fait à la fin de la semaine, on a le week-end pour se reposer, pour la plupart. Oui, je parle parce que les pasteurs, c'est pas le jour du repos. Et puis, au bout de quelques mois, d'une année, on prend des vacances, on prend quelques jours, quelques semaines, comme ça, on s'évade. C'est important pour le corps, c'est important sur le plan psychologique, bien évidemment. C'est le rythme que Dieu a voulu, en fait. Cette alternance entre le travail et le repos. Une activité physique, intellectuelle, et puis un temps de repos. Donc on voit cette symbiose entre les deux, le travail et le repos, déjà sur le plan physique. Mais c'est quelque chose que Dieu a amené beaucoup plus loin lorsqu'il a imposé le sabbat au peuple d'Israël. C'est un lien encore plus fort que l'on voit ici entre le travail et le repos. Le texte de Deutéronome, dans lequel, chapitre 5, dans lequel là, il nous est raconté comment Dieu va instituer le sabbat, nous avons ce verset-là. D'abord le verset 12, où Dieu dit au peuple d'Israël, « Observe le jour du sabbat pour le sanctifier, comme l'Éternel, ton Dieu, te l'a commandé. » Puis il donne là quelques détails sur le sabbat. Et il arrive au verset 15 et il dit cette parole très surprenante, très surprenante. Écoutez bien, « Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel, ton Dieu, t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. C'est pourquoi l'Éternel, ton Dieu, t'a commandé de célébrer le jour du sabbat. » On se dit, mais quel rapport il y a entre les deux? Quel rapport il y a entre la libération d'Égypte et le sabbat? Si c'est une question de reprendre des forces physiques, de se reposer pour dormir et pour renouveler ses forces, là on comprend, le sabbat a cette utilité, on comprend cette utilité-là. Elle est évidente, elle saute aux yeux. Dans notre expérience personnelle, c'est ce qu'on vit tout le temps. On a besoin de se reposer. Donc que Dieu insiste et commande un jour de repos par semaine, et ça c'était en plus exceptionnel hein, dans l'Antiquité, il n'y avait pas d'autre culture qui faisait cela. Dieu va vraiment imposer un jour de sabbat, un jour de repos. Mais ce n'était pas simplement pour se reposer. On voit que ça va beaucoup plus loin dans l'Esprit de Dieu. Dans l'Esprit de Dieu, lorsqu'il dit « Quand tu feras le sabbat, ça sera pour toi l'occasion de te rappeler une chose, c'est que tu as été esclave au pays d'Égypte. C'est pour cela aussi que j'ai institué le sabbat. » Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Quand il ordonne au peuple d'Israël d'observer le sabbat, c'est une manière pour Dieu de dire à ce peuple, chaque fois que vous n'observerez pas ce sabbat, vous serez des esclaves. Vous redeviendrez des esclaves. Parce que vous étiez esclaves en Égypte. Je vous ai libéré de l'esclavage en Égypte. Vous étiez sous un joug, un fardeau trop lourd pour vous. Vous en avez eu assez. Vous avez crié pour que je vous libère. Je vous ai libéré par amour pour vous. Je vous ai libéré pour garder ma promesse faite à Abraham. Je vous ai donné cette liberté, mais maintenant je vous demande une chose, c'est de respecter le sabbat. Et si vous ne le faites pas, vous êtes en train de vous remettre sous l'esclavage. En fait, Dieu est en train de dire à Israël et nous dire à nous, le fait de nous reposer, le repos dans l'Esprit de Dieu, c'est comme une déclaration de liberté en fait. Alors bien sûr, il y a le repos qui est un temps d'arrêt du travail, où on ne travaille pas. Ça, c'est le repos que nous connaissons, hebdomadaire ou annuel, quand on prend des vacances. Mais il y a un repos plus profond. Parce qu'on peut travailler et ne pas être dans le repos. Ou on peut travailler et être dans le repos. On peut travailler dans le repos. On peut travailler dans l'agitation. Et c'est à cela que Jésus s'est adressé, parce que, bien évidemment, cette parole de Dieu au peuple d'Israël n'a pas fait que Israël ait vraiment rentré dans ce repos. Ils n'ont pas tout à fait compris cela. Et bien des fois, ils ne respectaient pas le sabbat. Ou quand ils le respectaient, c'était purement mécanique pour suivre la loi de Moïse dans le détail près, mais ce n'était pas dans l'esprit. Et Jésus s'est confronté à eux sur cette question-là, vous le savez, pour la plupart d'entre vous. Seulement, c'est pour répondre à ce problème-là, justement, qui n'a pas été réglé par la loi. C'est pour répondre à ce problème-là que Jésus a dit ce qu'il a dit dans ce merveilleux texte de Matthieu 11, que vous connaissez certainement tous, même par cœur pour beaucoup d'entre vous. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Elle est belle, cette parole. Hein ? On la cite souvent, cette parole. Mais je ne sais pas si on la comprend bien, cette parole de Jésus. On la comprend dans un sens, on dit, ouais, et on l'adresse souvent quand on annonce l'Évangile, en disant, voilà, vous êtes fatigués et chargés, venez. Alors, beaucoup de gens sont fatigués et chargés, bien évidemment, pour 10 000 raisons. Et ils se sentent concernés, et bien évidemment, ça peut s'adapter et s'appliquer à eux. Mais quand Jésus parle de cette fatigue, il parle d'un joug. Le joug, tiens, c'est peut-être pour les plus jeunes qui ne savent pas ce que c'est. Il y en a qui n'ont jamais vu un joug. Voilà, j'ai été chez mon voisin hier et j'ai pris la photo. On ne voit plus ça aujourd'hui, bien évidemment, ou dans des manifestations, dans les villages, on ressort, on montre un peu comment ça se faisait avant, autrefois. Aujourd'hui, c'est le tracteur. Le joug, c'était ça. Ça associait deux animaux ensemble, souvent des bovins, pour tirer une charrue, pour tirer un chariot. Mais le joug aussi avait été le symbole de l'esclavage, de l'asservissement, de la servitude, de la dépendance, de la soumission, de la domination. En Égypte, les Hébreux étaient sous le joug égyptien. Ça voulait dire qu'ils étaient sous la domination des Égyptiens. Ils étaient esclaves des Égyptiens. Ce que Dieu veut dire, ce qu'il voulait dire déjà quand il a institué le sabbat, et ce que Jésus reprend ici lorsqu'il appelle ces gens qui sont fatigués et chargés, c'est que si mon nom, mon identité, ou mon identité dépend de mon travail, de ce que je fais, quelle que soit la chose que je fais, comme moi en ce moment, si mon identité dépend de cela, alors ce que je fais ou mon travail, c'est mon maître et je suis esclave. Et forcément, ça produira toujours une agitation intérieure. La peur de ne pas réussir à ce moment-là, parce que trop de choses dépendent de cela. Et après la réussite, la peur de perdre, comme Madonna, ce que j'ai réussi à acquérir, soit en célébrité, en nom, ou en argent, ou en biens matériels, ou autre. C'est à ce problème-là que Jésus s'adresse. C'est très profond. Tous ces cœurs agités, sous le poids d'un joug et d'un fardeau, pourquoi est-ce qu'ils étaient ainsi sous ce poids? C'est parce qu'il était question de se faire un nom. Soit celui qui avait été donné par le groupe, et du temps de Jésus, c'est plutôt cette culture-là, pour être à la hauteur des attentes du groupe qui dit, voilà, on t'a donné ce nom-là, maintenant tu dois être à la hauteur. Donc il va falloir que tu travailles, ou tu fasses telle et telle chose. Ou soit, quand c'est à nous de nous faire un nom. Énormément d'enjeux à ce moment-là. Et c'est un joug, c'est un fardeau. On comprend que les gens soient fatigués et chargés, comme Jésus le dit, insatisfaits, dans la crainte, parfois dans le désespoir. Vous savez que au Japon notamment, quand des Japonais sont licenciés, ils peuvent rester des mois et des mois sans rien dire à leur famille. Ils partent le matin comme s'ils allaient travailler et ils tournent dans les rues toute la journée. La honte pour eux, la honte, le déshonneur de devoir dire qu'ils n'ont pas de travail. Parce que tout leur nom, il est sur ce travail, il est sur une activité professionnelle. Toute leur identité, elle repose là-dessus. Donc si on leur enlève ça, on leur enlève tout. Donc vous avez ces hommes qui font semblant d'aller au travail pour garder un nom. Alors ça ne dure qu'un temps, bien évidemment. S'ils ne retrouvent pas d'autre travail, c'est terrible pour eux. Et certains vont jusqu'au suicide, bien sûr. La honte est tellement grande. Vous voyez le poids ? Quand Jésus dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés », il dit « Je sais le problème ». Le problème, c'est que vous avez besoin d'une identité. Cette identité, c'est soit la société, le groupe, la collectivité qui cherche à vous l'imposer, soit c'est à vous de la construire et de la faire vous-même. Moi, je vous propose autre chose. Je vous propose de vous donner un nom. Je vous propose de vous donner une identité. C'est la solution que Jésus propose. On revient sur ce texte de Matthieu 11. C'est quand même assez surprenant ce que Jésus fait. Vous avez remarqué le texte ? Quand il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug. » Alors il dit « Voilà, vous êtes fatigués et chargés parce que vous êtes sous un joug. Vous êtes sous un fardeau, c'est trop lourd pour vous. Il y a trop de choses qui sont sur cette activité, sur ce travail, sur ce que vous devez faire. » Et vous êtes fatigués et chargés à cause de cela, parce que vous êtes sous un joug. Il dit bien, ma solution à moi, c'est de vous proposer un joug. On dit, hey, Seigneur, oh, qu'est-ce que tu fais là ? Le joug, c'est pas sympa, hein ? Vous voyez un peu ce que Jésus est en train de faire là ? On dit, mais Jésus, si je suis fatigué et chargé, c'est parce que je suis sous un joug. Et toi, tu me dis, ma solution à moi, c'est de vous mettre sous un autre joug. Où est la solution ? Il faut lire la suite, bien sûr. Et vous connaissez la suite. Et vous connaissez la solution. Quand Jésus dit « Prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions, car, dit-il, je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Alors on dit « Seigneur, c'est quoi un fardeau léger ? Moi, un fardeau lourd, je sais ce que c'est. » Vous voyez ce que je veux dire ? Si on appelle quelque chose fardeau, c'est parce qu'il est lourd, non ? Ouais, vous êtes comme moi. On est dans la même logique, là, ça me rassure. Il dit « Mon joug est doux ?» Un joug qui est doux. Vous connaissez ça, vous, un joug qui est doux ? Et un fardeau qui est léger. On dit « Mais c'est des mots contradictoires, c'est presque un oxymore, ça. C'est, je dis, mais ça ne va pas ensemble, ces deux mots. Fardeau léger, joug doux, on ne les mettrait pas ensemble. Et Jésus les met ensemble. Il dit, vous aviez un fardeau qui n'était, un joug qui n'était pas adapté. Un fardeau qui était beaucoup trop lourd pour vous, c'était de vous faire un nom, ou c'est répondre aux autres qui ont voulu vous donner un nom pour être à la hauteur de ce qu'ils vous ont donné. C'était trop lourd pour vous. Moi, ce que je vous propose, bien sûr que c'est un joug, bien sûr que c'est un fardeau. Mais la différence, c'est que mon joug à moi, il est doux et mon fardeau, il est léger. Pourquoi ? Parce que, dit-il, je suis doux et humble de cœur. Je suis doux et humble de cœur. C'est la solution que Jésus propose. Pourquoi est-ce que ce fardeau va devenir... Parce que Jésus demande la même chose. Il demande à être notre maître. Un joug, ça veut dire on est associé à lui et on dépend de lui et on est soumis à lui et j'ai envie de dire même on est esclave de lui. D'accord ? Donc Jésus n'enlève pas cette relation-là. Il ne change pas cela. C'est lui qui fait la différence. Il fait la différence parce que lui, c'est un maître, oui, mais c'est un maître qui est doux et léger. Et pourquoi est-ce qu'il est doux et léger ? Et pourquoi est-ce que ce joug finit par être doux et ce fardeau finit par être léger ? Parce que quand il nous donne ce joug, il ne nous dit pas « Vous allez porter ce joug et quand vous aurez fait vos preuves, je vous accepterai ou pas. Parce que c'est ça qui fait que le joug est dur et que le fardeau est pesant. Parce que pour nous, si on pense que c'est à nous de nous faire un nom, si on veut se faire un nom, c'est afin d'être accepté par nous-mêmes d'abord, accepté par les autres, la société dans laquelle on est. Et si on est des religieux, accepté par Dieu. On dit voilà. Et ça, c'est pesant. Jésus dit, moi, je vous dis de venir à moi tel que vous êtes, c'est-à-dire fatigués et chargés, et sans avoir rien fait de plus que d'être fatigués et chargés. Et moi, j'ai fait une œuvre de rédemption. J'ai fait une œuvre de salut qui fait que maintenant, vous êtes acceptés. Vous êtes aimés, vous êtes reconnus. Et si vous venez à mon service, si vous dépendez de moi, ce n'est pas pour être accepté par moi. Donc, il n'y a plus de pression. Il n'y a plus de pression. Je suis d'abord accepté et aimé par lui. Je suis accepté, fatigué et chargé comme je suis. Jésus ne dit pas, bon, bah, une fois que tu seras plus fatigué, plus chargé, tu viendras et je t'accepterai. Non, non, il dit, vous venez tel que vous êtes, cabossé comme vous êtes, abîmé comme vous êtes par la vie, par les événements de la vie. Et moi, je vous relève, je vous sauve, je vous purifie, je vous pardonne, je vous rétablis, je vous justifie. Et maintenant, vous êtes avec moi. Et dans cette relation-là, le joug sera un joug qui sera doux et un fardeau qui sera léger. C'est à nous de choisir, vous savez. Peut-être on a accepté le nom que d'autres n'ont voulu nous donner. On a tout fait pour être à la hauteur et on est toujours dans la crainte, se demandant si on va finir par être accepté. Peut-être on nous a dit c'est à toi de faire ton nom et de te faire un nom dans la société, c'est à toi de faire ta place. Et on est comme Madonna. Même si on réussit sur le plan de la célébrité mondiale comme elle, ça ne suffira pas. Ça ne suffira pas. C'est ce qu'elle a témoigné. Ou soit on accepte le nom que Jésus veut nous donner. Et qui nous dit que nous sommes acceptés tels que nous sommes. Après, ce que je vais entreprendre, je vais l'entreprendre dans une vraie liberté. Et ce que je vais faire au travail, ce que je vais faire dans le service de l'Église, ce que je vais faire pour les autres, je ne vais jamais le faire pour être accepté, parce que je le suis déjà. Donc là, je suis libre. Et je peux vivre ce repos intérieur. Je ne sais pas si on vit tout cela, vous savez. Et je pense au pasteur, parce que je suis pasteur. C'est le genre de prédication que j'aimerais bien apporter au corps pastoral. Parce que je ne suis pas sûr qu'on vit tous cela. Et en tant que chrétien, dans les services que nous avons, dans l'Église, je ne suis pas sûr. Si on est là dans ce service de l'Église en se disant, voilà, c'est au travers de ça que les autres vont m'accepter. Alors c'est un fardeau qu'on se met qui est beaucoup trop lourd et on devient esclave. Et ça ne sera jamais assez. Si on vit pleinement dans le tout accompli de Jésus à la croix, dans le fait que lui a tout fait cela pour que je sois, moi, reconnu et accepté, et qu'il me donne un nom, alors j'ai plus de pression. Je n'ai pas cette pression terrible. Et je peux servir pour Dieu, pour les autres, de manière libre. Je terminerai par deux illustrations. Je vais reprendre celle d'Eric Liddell, parce qu'il est tellement extraordinaire. Mais cette fois-ci, j'ai mis le copain, là, Harold Abraham. Ils ont fait les JO à Paris en 1924. Et je vous parlais la semaine dernière d'Eric Liddell. Lui, c'était un chrétien, un croyant. Il y avait une course qu'il pouvait gagner, obtenir une médaille et même la médaille d'or, mais c'était le dimanche. Et lui dit, non, moi le dimanche, je suis avec mon Dieu. Vous êtes libre quand vous faites cela. Le sport n'est pas votre maître. Vous n'êtes pas l'esclave de cela. Et c'est ce qui l'a amené à dire, Je crois que Dieu m'a créé pour un but précis, mais il m'a aussi créé pour être rapide. Et quand je cours, je ressens son plaisir. C'est de cela dont on parlait la semaine dernière. Malheureusement, ce n'était pas le cas de Harold Abrams. Lui, il dira la chose suivante. Et maintenant, dans une heure, je serai sur la piste de nouveau. Je lèverai les yeux et je fixerai ce corridor, ce couloir. Avec 10 secondes de solitude au travers desquelles je vais justifier toute mon existence. Aujourd'hui, c'est quoi le record du monde du Sandball? C'est 9,54? À l'époque, c'était 10 secondes et... Il dit, j'ai 10 secondes maintenant pour justifier mon existence. Toute son existence reposait là-dessus, en fait. Mais il pose la question. Après avoir dit cela, il dit, mais est-ce que cela sera suffisant? Aubrey, c'était son ami, il dit, j'ai déjà connu la peur de perdre, mais maintenant j'ai presque peur de gagner. Il va gagner, mais ça ne suffira pas. À son bonheur. On termine avec cette dernière illustration. Je l'avais donnée il y a 2 ans quand on a parlé pour la première fois du travail. Je la redonne aujourd'hui parce qu'elle est tellement importante. C'est l'expérience de Tolkien. Tolkien, l'auteur du Seigneur des Anneaux. Certains l'ont appelé le Seigneur des Légendes. Et ami personnel très proche de C.S. Lewis. Et il va écrire un conte qui s'appelle Feuille de Nigron. Et si ce conte, il l'a écrit, c'est parce qu'il était en train de travailler sur le Seigneur des Anneaux. Tout cet univers qu'il était en train de mettre en place. Depuis des années, il travaillait là-dessus. Il est arrivé à un blocage. Voilà, il sentait qu'il ne pouvait plus aller plus loin. Alors en même temps, c'était juste au moment de la deuxième guerre mondiale, il y avait tout ce qui se passait autour et qui l'éloignait un peu de son travail. Et donc, il était très ennuyé par cela, parce qu'il avait travaillé des années, il ne se voyait pas terminer ce travail, ce chef-d'œuvre, hein, qui est le Seigneur des Anneaux. En plus de cela, à côté de chez lui, il avait une de ses voisines qui s'était mise en tête à abattre un grand peuplier qui se trouvait non loin de chez lui. Et ça l'a énervé aussi passablement. Et alors qu'il était dans ce contexte-là, un matin, il s'est réveillé avec l'histoire de Nigron en tête, qui va écrire d'un jet pratiquement. Nigron, ça veut dire, en anglais, ça veut dire le pinailleur. Le pinailleur, c'est là, dans ce contexte, c'est le perfectionniste. C'est celui qui veut tout faire parfaitement, jusque dans le moindre détail. Et Nigron, c'est un peintre, et il travaille depuis des années sur un tableau qui représente un arbre, mais il n'avance pas vite, comme lui avec le Seigneur des Anneaux. Alors il apporte un soin là, démesuré au plus petit détail de son tableau. En même temps, il doit faire face à d'autres aléas, à droite et à gauche. Je passe les détails, vous pouvez lire ce conte qui est merveilleux. Et il finira jamais. En fait, tout ce qu'il fera, c'est une feuille, une seule feuille. Mais alors, elle est bien faite. Hein. Mais c'est qu'une feuille. Alors, quand vous faites un arbre, on ne peut pas dire que vous avez beaucoup avancé dans le travail, là, vous voyez. Si le patron arrive derrière, il dit « Alors, t'as bien travaillé ? Dans ton arbre, t'as une feuille. » Mais elle est belle, elle est très belle. Et donc, dans son conte, dans son imaginaire à lui, bien sûr, Nigel, il va partir en voyage et il va rester là pendant quelque temps, dans un asile. Et puis ensuite, il va partir dans un voyage extraordinaire, ce qui est la mort, en fait, qui représente la mort. Mais quand Nigel arrive de l'autre côté, dans ce voyage extraordinaire, il a un spectacle extraordinaire devant lui. Son tableau, l'arbre, la forêt, derrière l'arbre, les montagnes, Tout cela a pris vie, en fait. Tout cela se trouve, là. Lui, il avait commencé, il avait juste eu le temps de faire une feuille. Et puis, quand il arrive dans ce pays extraordinaire, il dit « Mais tout ce que j'ai voulu faire, tout ce que j'ai imaginé, se trouve là et vivant. » Le tableau était sous ses yeux. Alors il dit, je lis un extrait, « Devant Nigol se dressait l'arbre, son arbre achevé. Si l'on pouvait dire cela d'un arbre vivant dont les feuilles s'ouvraient, dont les branches croissantes se courbaient dans le vent que Nigol avait si souvent senti ou deviné et qu'il avait si souvent échoué à rendre. Contemplant l'arbre, il leva les bras et les ouvrit tout grands en disant « C'est un don, c'est un don. » Ça, c'est quelque chose qui a parlé énormément à Tolkien dans le travail qu'il était en train de faire. Dieu lui avait donné des talents, talents d'imagination, bien sûr, d'écriture, pour raconter des histoires, afin de permettre de mieux comprendre la réalité du monde. Nigol, lui, avait deviné un arbre. Il avait deviné un ensemble, mais il n'avait pu réaliser qu'une seule feuille. Tout ce qu'il avait pu faire sur cette terre, c'est cela. Et ça, ça peut parler à beaucoup. Alors, pas seulement aux artistes, pas seulement aux entrepreneurs, à ceux qui créent des choses, parce que vous savez, quand vous êtes créateur de quelque chose, vous avez une vision comme Tolkien, vous avez une imagination débordante et vous voyez les choses. Et bien évidemment, vous n'arrivez jamais au bout. Et souvent, vous mourrez avant d'avoir terminé. Surtout quand vous êtes perfectionniste. On a tous la crainte d'être oublié. Donc on veut laisser quelque chose. Nous croyons que Dieu est vivant. Et la Bible nous révèle qu'il y a une réalité qui est plus grande que celle que nous voyons et que nous connaissons ici-bas. Que cette vie n'est pas la seule vie. Qu'il y a une autre vie plus belle et plus grande. Et chaque réalisation que nous faisons ici-bas, même la plus simple, même la plus rudimentaire, qui est réalisée en réponse à ce que Dieu nous a demandé de faire, elle n'est pas vaine. Elle ne sera pas oubliée. C'est ce que Tolkien a vécu et c'est ce qu'il a voulu raconter au travers de ce conte. C'est ce que nous devons aussi nous rappeler. Il y a bien des choses que nous commençons et que nous n'achèverons pas, mais que d'autres continueront après nous. Ça a été le cas pour cette église, par exemple. Il y a quelqu'un qui est venu qui a commencé quelque chose. Il n'a pas achevé, il savait. La première génération n'a pas achevé, mais il y a une deuxième. Et puis, si le Seigneur n'est pas revenu, ben, il y a une troisième et puis une quatrième qui vont continuer. Alors, on ne fait qu'une feuille, peut-être, mais d'autres vont faire d'autres feuilles. C'est cette assurance-là que nous devons avoir lorsque nous faisons quelque chose, lorsque nous réalisons quelque chose. C'est que Dieu, lui, n'oubliera pas. Alors j'aimerais qu'on puisse vivre et faire les choses dans le repos de Dieu. Parce que ce que nous faisons, ce n'est pas pour nous faire un nom, parce que le nom, on l'a déjà reçu. Donc ce que nous faisons, on le fait vraiment pour Dieu et pour les autres, librement. Il y a un joug, mais il est doux. Il y a un fardeau, mais il est léger. Parce que notre maître à nous, il est doux et humble de cœur. Alors, on ne peut pas mieux terminer qu'en lisant ce texte de 1 Corinthiens 15, 58, dans lequel Paul dit « Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, progressez toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas vain dans le Seigneur. » Là, il s'adressait bien sûr à ceux qui étaient dans le service dans l'Église et qui... Et je crois que ça peut s'appliquer à tout ce que Dieu nous demande de faire par ailleurs. Que ce soit par rapport à notre famille, que ce soit par rapport à notre travail, par rapport à l'entraide fraternelle que nous pouvons apporter à droite et à gauche. Tout cela, ça n'est pas vain dans le Seigneur. Alors peut-être ce qui a été partagé ce matin va vous permettre pour certains d'aller au travail demain matin avec un air plus léger. Je le souhaite. Parce que si vous allez au travail demain matin pour vous faire un nom, croyez-moi, ça va être compliqué. Ça ne sera jamais assez. Et vous mettez un fardeau et vous êtes esclave. Si nous recevons le nom que Jésus nous a donné, alors nous pouvons aller au travail ou faire tout ce que Dieu nous appelle à faire. Et on peut le faire dans la liberté, pour le glorifier, pour le servir, avec les dons qu'il nous a donnés, avec les capacités qu'il nous a données. Et qu'est-ce qu'on travaille mieux dans ces conditions-là? Qu'est-ce qu'on fait mieux ce qu'on a à faire, croyez-moi? On va terminer par un temps de prière et je pense ce matin à ceux qui, dans le domaine professionnel en particulier, qui vivent des moments difficiles. On a déjà fait allusion la semaine dernière, mais j'en ai encore entendu parler cette semaine et on sent que c'est, ouais, pour certains, c'est vraiment difficile. Il y a des menaces, bien sûr, de licenciement. Il y a des conditions de travail qui ne sont pas les meilleures. Il y a des situations compliquées. Puis il y a ceux qui sont au chômage aussi. Il y a ceux qui n'ont pas d'emploi. Pour ceux qui sont dans les études et ne sentent pas être dans une voie qui va les amener quelque part. Il y a vraiment cela. Et je voudrais qu'on puisse prier ensemble et nous tourner vers Dieu pour apporter ces frères et ces sœurs, ces hommes et ces femmes qui sont dans ce genre de situation. Et si vous l'êtes, je vous invite à vous lever à votre place et on va prier ensemble pour vous. Indiquez par là que vous avez besoin dans le domaine du travail, soit parce que vous êtes sans travail, soit parce que voilà, les conditions ne sont pas là. Certains sont peut-être au prud'homme, je ne sais pas, enfin, des situations compliquées. Afin que Dieu vous soutienne et vous aide. Seigneur, nous nous associons ce matin ensemble pour ces frères et sœurs qui se sont levés et qui ont besoin de ta grâce dans leur vie professionnelle en particulier, Seigneur. Tu vois ce qu'ils vivent en ce moment. Seigneur, tu connais tous les détails de ce qu'ils vivent et Seigneur, tu veux leur assurer ce matin que toi, tu es avec eux et qu'ils puissent connaître ce repos que toi seul peux donner, Seigneur. Cette paix intérieure, Seigneur, dans ces situations-là, c'est certainement le meilleur cadeau que tu puisses nous faire. Et je te demande, Seigneur, qu'ils vivent avec ta paix, Seigneur, cette situation. Parce que ce n'est pas dans le travail qu'ils veulent se faire un nom, Seigneur. Le nom, c'est toi qui leur as donné, Seigneur. C'est toi qui les as reconnus, qui les as acceptés. Et Seigneur, aujourd'hui, ils sont là, Seigneur, dans une situation difficile sur le plan professionnel, parce qu'il y a une crise, parce qu'il y a une menace de licenciement, parce qu'il y a des collègues ou des chefs de service ou des employeurs qui, là, ne font pas les choses comme ils devraient les faire. Alors, Seigneur, nous te prions d'apporter la solution, Seigneur. Te demandons, Seigneur, de renverser le cours des choses. Là où tout semble bloqué, toi, tu peux débloquer les choses, Seigneur. Te demandons cela ce matin, Seigneur, pour eux, que dans les jours qui viennent, ils puissent constater cela, Seigneur, et témoigner de cela, Seigneur, de ce que tu fais maintenant dans leur vie personnelle. Seigneur, c'est toi, leur maître et leur seul maître, Seigneur, et ils te font confiance. Merci pour le pain quotidien que tu donnes à tous ceux qui sont ici, Seigneur. Tu es celui qui prend soin de nous, Seigneur, dans tous les domaines de notre vie. Et merci pour le travail, pour ceux qui ont un travail, Seigneur, et qui le vivent, Seigneur, dans de bonnes conditions, Seigneur. Te bénissons pour cela, Seigneur, et nous te prions pour ces entreprises. Te prions, Seigneur, pour ces entreprises, Seigneur, ces sociétés, Seigneur, dans lesquelles nos frères et sœurs travaillent. Tu veux leur donner de prospérer, Seigneur. Tu veux leur donner, Seigneur, d'aller de l'avant, Seigneur, et de contribuer, Seigneur, au bien, Seigneur, de cette entreprise. Seigneur, merci pour cela, Seigneur. Nous te sommes reconnaissants pour toutes les bonnes choses que tu nous donnes, Seigneur. Mais par-dessus tout, Seigneur, tu nous gardes, les uns et les autres, de ne pas essayer de nous faire un nom au travers d'une activité quelle qu'elle soit, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, recevoir toi le nom que toi tu nous donnes, Seigneur. Nous savons que c'est toi, Seigneur, qui es notre joug, et si tu es notre joug, il sera toujours doux, Seigneur, et léger. Merci pour cela, Seigneur. Merci pour ce que tu fais. dans le nom précieux de Jésus. Amen.